8h sur France Culture. Et voici donc le journal d'Amélie Perrier. Bonjour Amélie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Une nouvelle campagne commence ce matin. Le ralliement de François Bayrou à Emmanuel Macron pour échanger les rapports de force. Nous nous demanderons d'abord si le patron du Modem a opéré une volte-face.
Et nous irons voir la droite qui le dira haut et fort. Cela ne change rien et ce n'est pas une nouvelle épine dans le pied de François Fillon.
L'étau de la justice se resserre autour de Marine Le Pen. Hier, sa plus proche collaboratrice a été mise en examen pour l'affaire des emplois fictifs au Parlement européen.
À l'étranger, la paix en ligne de mire en Syrie, mais tellement loin. Les pourparlers reprennent aujourd'hui entre le régime et l'opposition avec la Russie en position de force et les États-Unis quasiment absents.
Les États-Unis où les démocrates tentent de se reconstruire après leur défaite cuisante à la présidentielle. Ils choisissent leur nouveau chef et ont l'intention de s'appuyer sur la mobilisation anti-Trump pour reconquérir leurs électeurs. Un coup de peau pour Macron, le titre fameux est Libération ce matin. Coup de peau comme la ville de François Bayrou. Le président du Modem a annoncé hier son ralliement à Emmanuel Macron. Pas de candidature personnelle, il préfère miser sur le candidat d'En Marche. Coup de peau au moment où Emmanuel Macron avait perdu un peu de vitesse avec ses déclarations polémiques sur la colonisation notamment. Une alliance pas forcément évidente quand on se souvient de certaines déclarations de Bayrou. En septembre, il tweetait par exemple « Derrière Emmanuel Macron, il y a les grands intérêts financiers incompatibles avec l'impartialité exigée par la fonction publique. Alors peut-on parler de volte-face ? David Pujadas lui posait la question hier au JT de France 2.
Pourquoi cette volte-face, François Bayrou ? C'est lui qui a changé ou c'est vous qui avez changé d'avis ?
C'est précisément l'enjeu des exigences que j'avais exprimées. Et notamment de cette exigence qui était pour moi fondamentale, qui était de voter une loi de la moralisation de la vie publique, de la vie politique, qui interdise ce qu'on appelle conflit d'intérêts, c'est-à-dire l'intervention de grands intérêts industriels et financiers sur la décision publique. Ça n'est pas une volte-face, c'est une garantie obtenue. Si je n'avais pas eu cette assurance, cette garantie, que nous allons enfin en France imposer une loi qui empêche les grands intérêts et le monde de l'argent de prendre le pas sur le monde politique, je n'aurais pas fait cette alliance. Les Français ont aujourd'hui envie d'être entraînés vers le haut. Et Emmanuel Macron ayant accepté ces idées que je porte, alors je trouve que une chance nouvelle s'est ouverte. Si on peut donner aux gens quelque chose à espérer, en tout cas pour moi, c'est au fond, c'est le but que je me propose et la garantie que j'apporte.
Alors pas de volte-face, mais sans aucun doute un tournant dans cette campagne présidentielle et un nouveau coup dur pour la droite emmenée par François Fillon, même si on ne veut pas le reconnaître publiquement. Pour les élus que vous avez rencontrés, Stéphane Robert, l'alliance au centre n'aura pas d'incidence sur les rapports de force entre les candidats ?
Chez les centristes, la décision de François Bayrou de s'allier avec Emmanuel Macron suscite avant tout de la surprise. Le député UDI, Charles Abédé de Courson notamment, rappelle qu'il y a seulement quelques mois, Bayrou qualifiait Macron d'hologramme et de candidat des forces de l'argent.
C'est un peu surprenant de s'allier avec quelqu'un à l'égard duquel on était très critique, dans des déclarations publiques en plus. Donc c'est assez surprenant en plus d'avoir une alliance avec quelqu'un dont on connaît toujours pas le programme.
Du côté des Républicains, et en particulier des soutiens de François Fillon, comme le député des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, on estime que cette alliance proposée par François Bayrou à Emmanuel Macron a le mérite de clarifier l'offre politique.
Monsieur Bayrou est fidèle à lui-même. C'est un expert en trahison, en compromission. Il a été celui qui a offert un marchepied à monsieur Hollande. Eh bien, le soutien de Monsieur Bayrou à Macron a au moins le mérite de la clarté et a au moins le mérite d'éclairer les Français sur les dangers que représente la candidature de la continuité de Hollande avec M. Macron.
On voit bien là l'argument des fillonistes qui consiste à tenter de renvoyer François Bayrou en même temps qu'Emmanuel Macron dans l'autre camp, à gauche. Seulement le pari qu'ils font eux, Bayrou et Macron, est que face à Marine Le Pen, le clivage droite-gauche est dépassé, périmé. Dès lors, il faut attendre le premier tour de l'élection présidentielle pour savoir qui a raison.
Emmanuel Macron, fort de ce nouveau soutien, a assisté hier soir au dîner du CRIF, les institutions juives de France, où il y a revu son ancien mentor, le président François Hollande, et deux futurs adversaires, Benoît Hamon et François Fillon. Absente du dîner, mais finalement bien présente dans les esprits, Marine Le Pen, le chef de l'État, s'est dit sûr que la France ne laisserait pas passer l'obscurantisme. Elle ne succombera pas à l'extrémisme, a-t-il répondu au président du CRIF, qui appelait arriver à faire barrage à l'extrême droite et à l'extrême gauche aux prochaines élections. Marine Le Pen, dans le viseur également de la justice, sa chef de cabinet Catherine Grisez a été mise en examen hier dans l'affaire des emplois fictifs d'attachés parlementaires européens. La présidente du FN a de nouveau contesté les faits et demandé à la justice de ne pas perturber l'élection présidentielle. Catherine Grisez, c'est la collaboratrice la plus proche de Marine Le Pen, autour de qui l'étau se resserre, Corinne Audouin.
Pendant 5 ans, de fin 2010 à 2016, Catherine Grisez a cumulé les casquettes. Assistante personnelle de Marine Le Pen, puis chef de son cabinet à la présidence du FN, elle était en même temps son assistante au Parlement européen. Le Parlement siège à Bruxelles et Strasbourg quand les bureaux du FN sont à Nanterre. Aux enquêteurs de l'organisme antifraude européen, l'OLAF, Catherine Grisez avait expliqué qu'elle pouvait cumuler les deux tâches, que certes, elle n'avait pas de logement à Bruxelles, mais qu'elle était hébergée chez des amis. Des explications qui n'avait pas convaincu le Parlement européen, pas plus semble-t-il que les juges d'instruction chargés du volet judiciaire de l'affaire. Ils l'ont mise en examen pour recel d'abus de confiance, un abus de confiance dont l'auteur serait, en toute logique, l'employeur de Catherine Grisez, Marine Le Pen. L'étau judiciaire se resserre donc autour de la candidate du FN qui devrait être rapidement convoquée. Protégée par son statut de députée européenne, elle ne peut pour l'instant être entendue que sous le régime de l'audition libre. Au vu de ses premières déclarations dénonçant une cabale politique, on peut douter que Marine Le Pen se rende de son plein gré à une convocation judiciaire.
Christiane Taubira, bonjour.
Bonjour.
Invitée des Matins de France Culture, vous avez été garde des Sceaux. On entend beaucoup de critiques dans cette campagne contre la justice. Marine Le Pen qui dit que ça perturbe l'élection présidentielle. François Fillon qui ne reconnaît pas la légitimité du parquet national financier. Il y a un danger comme ça à remettre en cause la justice ?
Incontestablement, un danger sur la démocratie. Le parquet national financier... Effectivement, c'est moi qui l'ai créé par la loi organique du 6 décembre 2013. C'est un parquet qui a compétence contre les délits boursiers, contre toutes les atteintes à la probité, favoritisme, clientélisme, manipulation dans les marchés publics, etc. J'observe, c'est un parquet financier qui est constitué de magistrats. J'ai renforcé d'ailleurs également le pôle des juges d'instruction. Donc ce sont des équipes au parquet et au siège qui ont des compétences absolument incontestables dans la lutte contre la corruption, contre l'évasion fiscale, contre tous ces sujets absolument insupportables en période de difficultés budgétaires et de difficultés économiques. Ce sont des magistrats de très 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 grande qualité, d'une extrême rigueur. J'observe que tout le monde a trouvé très bien que la procureure du parquet financier national ait prononcé des réquisitions extrêmement dures contre Jérôme Cahuzac. On a trouvé ça très bien. Et puis maintenant que le parquet fait son travail, que les juges d'instruction traitent les choses avec sérieux, avec rigueur, concernant d'autres dossiers, il y en a d'autres sans doute, on entend cela. Je crois que c'est le rapport très très malsain de certaines personnalités politiques qui ont déjà été au pouvoir et qui aspirent au pouvoir avec la justice. Dans une démocratie, oui, il faut que la justice, d'abord c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme, il faut qu'elle soit la même pour tous, hein, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Ce n'est pas toujours le cas dans les démocraties. Donc toutes ces personnes qui protestent et qui utilisent la justice comme bouc émissaire montrent surtout leur incapacité à accepter une démocratie. Et puis ça, c'est ce que j'appelle notamment dans le chapitre qui est consacré au Front National, qui s'appelle le casse du siècle. C'est crier Guillot au loup. C'est-à-dire que voilà, il y a des dangers, on nous poursuit, on nous harcèle. Bon, mais les turpitudes du Front National, elles sont vieilles et sont anciennes. Moi, j'observe que ça ne leur a jamais coûté électoralement. J'en rappelle quelques-unes dans le livre et on constate une chose, c'est que leur cote continue à monter, c'est que leur électorat continue à gonfler. Il y a quand même, ce numéro-là, non. Mais par contre, il est effectivement dangereux. Et non, il faut que la justice dans une démocratie soit de la qualité de celle qu'on a, qui peut encore s'améliorer, qui va encore s'améliorer. Je fais de belles promotions de magistrats. Donc il y a des magistrats, puisqu'il faut 31 mois pour former des magistrats. J'allais dire des magistrates, parce que les jeunes femmes sont beaucoup plus nombreuses. Donc elles ont commencé à arriver, elles et ils ont commencé à arriver dans les juridictions depuis fin 2015. Et voilà, c'est un renouvellement assez conséquent du corps de personnes de qualité sur le droit qui appliquent le code pénal et le code civil, parce que la justice civile est importante aussi. et qui ne doit pas être mise en cause comme ça par des gens qui passent leur temps en plus à donner des leçons de bonne tenue à tout le monde dans la société, et qui sont impitoyables de sévérité vis-à-vis de la moindre incivilité.
Merci Christiane Taubira, on vous retrouve pour la suite des Matins de France Culture. À la page économie, le rachat d'Opel par PSA, il semble en bonne voie. L'État français actionnaire de Peugeot a apporté hier soir son soutien à la transaction, tout comme la chancelière Angela Merkel. Hier, le patron du groupe PSA, Carlos Tavares, s'est employé à convaincre également le Royaume-Uni de Theresa May, car ce rachat, annoncé la semaine dernière, a suscité quelques inquiétudes au sein des gouvernements et des syndicats européens. Annabelle Grolier.
Pour déminer le terrain, le président du directoire, Carlos Tavares, est allé jusqu'à s'entretenir mardi au téléphone, une demi-heure durant, avec la chancelière allemande. Angela Merkel, qui se serait montrée très réceptive au projet défendu par PSA, indiquait un porte-parole du groupe automobile français. De son côté, le porte-parole de la chancelière assurait que le gouvernement allemand accompagnerait les discussions entre les deux groupes de manière positive. Et c'est la première fois que Berlin signale son soutien au projet de manière aussi claire. Il s'agissait surtout de rassurer les Allemands sur ses intentions en matière d'emploi. Opel Vauxhall emploie 19 000 personnes outre-Rhin et 4 500 sur le sol britannique. En début de semaine, PSA avait déjà promis aux représentants syndicaux allemands de respecter les accords existants au sein de la filiale européenne de General Motors, comme la protection des emplois jusqu'à fin 2018 et plusieurs accords garantissant les investissements et les modèles sur les trois sites allemands. Mais le marathon diplomatique de Carlos Tavares ne s'arrête pas là. Une entrevue avec le syndicat britannique est prévue pour vendredi, sans compter qu'en France, les syndicats attendent aussi des précisions en rappelant que PSA est lié par un accord de compétitivité qui court jusqu'en 2019. Opel Vauxhall, qui emploie 38 000 salariés, répartis dans 10 usines, situées dans 6 pays, n'est pas un petit morceau. Trois ans après le sauvetage de PSA et dans un contexte politique d'élection quelque peu tendu, le constructeur automobile français devra se montrer prudent et convaincant.
Vous écoutez les Matins de France Culture, il est 8h12, la suite du journal d'Amélie Perry avec l'actualité internationale. Le rendez-vous du jour, c'est la reprise des pourparlers de paix sur la Syrie.
Ça se passe à Genève, en Suisse. Représentants du régime et de l'opposition se retrouvent pour tenter de mettre fin à un conflit qui dure désormais depuis bientôt 6 ans et qui a fait au moins 310 000 morts et des millions de déplacés. Les anti-Assad ont perdu beaucoup de terrain sur le plan militaire ces derniers mois. Ils ne peuvent plus vraiment compter non plus sur le soutien américain, des États-Unis très discrets, flous sur le dossier, quand la Russie, elle, semble distribuer les cartes. Écoutez l'analyse de Fabrice Ballange du Washington Institute.
Tout le monde est très pessimiste sur l'issue de ces négociations de Genève. Stéphane de Mistura, le premier, a signalé qu'il y avait un vide du côté de Washington. Et c'est vrai, puisque la nouvelle administration américaine tarde à se mettre en place. Le nouveau ministre des Affaires étrangères, Tillerson, n'est à mon avis pas intéressé à perdre son temps avec cette opposition syrienne. Il n'a pas la patience de John Kerry. Et puis de toute façon, aujourd'hui aux États-Unis, le State Department est assez marginalisé. Donc tout ça fait qu'on a une Russie en position de force, des États-Unis qui sont absents, une opposition syrienne qui n'est pas crédible et un régime qui ne veut pas négocier. Donc on voit difficilement ce qu'on peut attendre de ces négociations de Genève. Le régime, de toute façon, il les considère depuis le début comme non légitimes et sans aucun poids politique et militaire. Donc je ne vois pas pourquoi il leur offrirait des places de ministre ou il négocierait le départ de Bachar el-Assad, surtout que celui-là, après 6 ans, à la tête du pays en position de crise, à un moment où il est en train de l'emporter, je ne vois pas quelles concessions il pourrait faire. Il ne voulait déjà pas en faire au début de la crise, donc ce n'est pas aujourd'hui qu'on peut s'attendre à des concessions politiques majeures vis-à-vis de cette opposition syrienne.
Fabrice Ballan, chercheur au Washington Institute, il répondait à Valérie Crova. Christiane Taubira, dans votre livre « Nous habitons la Terre », vous évoquez le conflit. Il témoigne, vous écrivez, du rétrécissement de nos « en commun » à l'échelle du monde et de la fixation des colères transformées en furie sans discernement. Comment reconstruire ces « en commun » ?
D'abord, peut-être construire une vraie communauté internationale, sans doute. Parce que là, il y a la démonstration flagrante de l'impotence de la communauté internationale. Évidemment, il y a des pays qui ont des dirigeants, qui ont des nostalgies impérialistes et qui veulent redéfinir leur zone d'influence dans le monde. Mais enfin, le monde a une histoire. Le monde a une histoire. Et il y a des zones où il y a une capacité d'intervention, des moments communs. La France a eu la Syrie a été chargée du protectorat de la Syrie. Ça établit des relations particulières. Or, en 2011, lorsque le printemps syrien, quand même, parce que c'est parti de là, des mouvements populaires de masse, de contestation du pouvoir syrien, des revendications de liberté, de droit, de démocratie, c'est parti de là. Et c'est la répression sauvage et massive de ces mouvements. Et il s'est écoulé du temps, un an et demi, avant que nous arrivions aux responsabilités, où on massacrait en Syrie. Donc il y a cette relation particulière qui n'a pas été utilisée à bon escient et au bon moment. Et puis il y a cette impotence de la communauté internationale qui constate en Syrie et ailleurs dans le monde des situations complètement abusives, ne serait-ce qu'au regard du droit international, et qui se montre absolument incapable d'agir. Et c'est vrai que c'est un rétrécissement de nos en commun, parce que nous ne sommes pas en mesure d'établir des relations stables, des relations de qualité, des relations aussi de préservation les uns des autres.
Christiane Taubira, François Hollande aurait-il pu, aurait-il dû en faire plus pour la Syrie ?
C'est pour ça que j'évoquais un an et demi. François Hollande arrive, ça fait un an et demi que le chaos est installé en Syrie. Il a pris en charge très rapidement le dossier syrien. Voilà, la question soit de la communauté internationale, soit de la capacité d'un certain nombre de grandes puissances, dont la France, d'entraîner la communauté internationale. François Hollande en a fait l'expérience, malheureusement. Lorsqu'il a proposé, lorsqu'on a eu des éléments probants sur l'usage par le régime syrien d'armes chimiques, il a proposé que les États-Unis s'impliquent. Ça n'a pas été possible. Donc on est vraiment dans une succession d'impotences qui coûte la vie à des millions de personnes.
Christiane Taubira, merci beaucoup. On l'entendait, les États-Unis très discrets dans ce conflit syrien, davantage tourné vers leurs frontières, notamment le Mexique, avec la visite aujourd'hui du chef de la diplomatie Rex Tillerson. Il va tenter d'apaiser des tensions, attisées notamment par les déclarations sur le mur et les mesures anti-clandestins. On parle ainsi beaucoup de la nouvelle administration Trump, plus vraiment de l'opposition démocrate. Après la défaite d'Hillary Clinton à la présidentielle, le parti a l'air encore sonné. Il se réunit ce week-end pour se choisir un nouveau chef. Hier soir, plusieurs candidats ont débattu et tous s'accordent sur un point. Les démocrates doivent profiter de la mobilisation anti-Trump pour se reconnecter avec leur base. Récit à New York, signé Charlotte Alix.
Le constat auquel fait face le parti est sombre. Les démocrates n'ont pas seulement perdu la Maison-Blanche, ils ont également échoué à regagner des sièges de sénateurs ou de gouverneurs, laissant aux républicains un boulevard pour exécuter leur programme. Les jeunes et les minorités ne se sont pas mobilisés et une partie non négligeable de la gauche américaine ne se reconnaît plus dans le parti. Mais la lueur d'espoir est réelle, car si Hillary Clinton n'a pas réussi à galvaniser les Américains les plus progressistes, l'élection de Donald Trump a fait le travail, le mouvement de résistance grandit et les élus démocrates espèrent que le parti pourra transformer ce momentum en victoire électorale. C'est si les démocrates choisissent un chef capable de rassembler la famille libérale. Sur les 9 candidats déclarés pour prendre la tête du parti, 2 font figure de favoris et ces deux-là illustrent la fracture du parti entre d'un côté les progressistes et de l'autre les pragmatiques. C'est à cette frange-là que Tom Perez est associé. L'ancien ministre du Travail de Barack Obama représente la ligne Obama-Clinton-Biden, l'establishment démocrate. À l'inverse, Keith Ellison, le premier musulman élu député aux États-Unis, fervent partisan de Bernie Sanders lors des primaires, représente la gauche du parti, soutenue par la sénatrice Elizabeth Warren et le sénateur John Lewis. C'est lui, Keith Ellison, que plébiscitent les manifestants, pour qui la victoire d'un candidat de l'establishment sonnerait le début d'une rupture définitive avec le parti. L'enjeu de cette élection n'est donc ni plus ni moins que l'avenir du parti démocrate.
Et prenons un peu de hauteur pour terminer ce journal, puisque des astronomes ont peut-être fait la découverte la plus excitante de ces dernières années, ainsi système complet, une étoile naine, elle a été baptisée TRAPPIST-1, et 7 planètes en orbite autour, des planètes où la température pourrait être proche de celle de la Terre et où l'on pourrait trouver des océans d'eau liquide et donc peut-être, Guillaume, de la vie. Le temps de ce jeudi sur Terre, cette fois en France, de la pluie et des vents violents sur une grande partie du pays, vigilance orange d'ailleurs dans le Nord et le Pas-de-Calais. Les minimales sont comprises ce matin entre 5 et 9 degrés au Nord, 1 à 9 degrés au Sud, et cet après-midi on attend 12 degrés à Paris et à Saint-Malo, 14 à Bayonne, 15 à Belfort, 18 à Grenoble, 18 aussi pour Montpellier. Cette édition était préparée avec Moussa Léchiliste. C'est à vous, Guillaume Erner.